Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce petit retard. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui par rapport aux conditions que nous rencontrons. Je tenais avant tout à vous remercier. Je tenais avant tout à remercier les organisateurs pour cette invitation à venir vous présenter mes travaux en cours sur la ville de Bayeux à l'époque gallo-romaine. C'est un travail de recherche et de synthèse que j'ai commencé il y a quelques années, que je ne suis pas forcément le seul à mener. Hein. Je dirige le projet, mais on est plusieurs du service archéologie à participer à ce projet de synthèse sur les données. L'objectif de ce travail, c'était de dresser une sorte de bilan des données disponibles sur l'époque antique à Bayeux. Essayer de déterminer de manière la plus précise possible l'ampleur des données qui étaient, enfin, du corpus qui était à notre disposition. Donc c'est une démarche qui a été commencée maintenant il y a quelques années quand j'ai pris mon poste au service archéologie. Et à l'origine de ce projet, c'était un constat assez simple. Le service départemental du Calvados intervient sur Bayeux depuis le milieu des années 1980. Et il faisait en fait, il nous est apparu assez rapidement que la ville faisait l'objet d'un suivi continu sur le plan de l'archéologie, donc des sondages, des surveillances de travaux, de l'archéologie préventive avec les diagnostics et certaines fouilles. Donc depuis le milieu des années 80. Et on peut noter une augmentation assez importante du nombre d'opérations par année depuis les années 2000. Et que malgré un certain nombre d'interventions qui étaient plus souvent menées sur des superficies assez réduites, dans un milieu urbain, dans un contexte urbain que je vais vous présenter qui est assez dense, qui est protégé, donc il y a assez peu de grosses constructions ou de beaucoup de projets d'aménagement. Donc malgré ces toutes petites interventions ponctuelles, et ben, au fil des années, on avait quand même une masse de données assez intéressante. Pas forcément toujours évidente à traiter parce que sur des très petites superficies, on n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir bien identifier les vestiges que l'on observe. Néanmoins, en particulier pour la période antique, qui était une période qui était assez peu connue sur la ville, encore il y a 10-15 ans, on se rendait compte qu'on avait un certain nombre de données potentiellement exploitables. Et puis, à tous ces travaux récents, toutes ces données accumulées depuis les années 80, le fruit d'interventions successives, on avait également, comme c'est le cas dans beaucoup d'agglomérations, un certain nombre de données un peu plus anciennes, qui dataient du début du XXe siècle, du XIXe, XVIIIe par moment, un certain nombre d'érudits locaux, d'antiquaires de Normandie, etc., qui fournissaient un certain nombre d'informations, encore une fois, à prendre avec un certain nombre de pincettes et à analyser avant de pouvoir les réutiliser. Mais on avait un corpus assez hétéroclite, assez hétérogène, de données potentiellement intéressantes sur la ville et sur les principaux édifices antiques de l'époque romaine. Donc ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était le fait qu'effectivement, comme le disait Luc, la ville est notoirement connue pour son patrimoine bâti médiéval, moderne aussi, avec toute une série d'hôtels particuliers, 18e notamment, qui sont conservés dans le cœur de la ville, connue pour la tapisserie de Bayeux, et que pour ainsi dire, dans les diverses publications ou brochures touristiques, publications scientifiques, il était assez peu question, jusqu'à il y a quelques années, des premiers temps de la ville, des origines de la ville à l'époque romaine. Donc, fort de ce constat, on s'est intéressé à cette question par plusieurs moyens. Donc, on avait un lieu d'intervention privilégié, des données, comme je vous le disais, un petit peu diverses et variées. Donc, le premier angle d'attaque qu'on a essayé de mener, c'était de profiter de tous les projets d'aménagement, de profiter de la filière archéologie préventive, en quelque sorte, pour pouvoir essayer de faire en sorte de mieux connaître la ville. Donc, on n'a pas forcément toujours l'opportunité, ou en tout cas le choix, dans les projets d'aménagement qui sont réalisés, mais néanmoins, avec une espèce de présence permanente, on était à même de pouvoir renseigner nos collègues de l'État, de la Direction régionale des affaires culturelles, qui eux sont les agents prescripteurs qui décident des projets à suivre, en ayant une bonne connaissance de la ville. On pouvait réussir à les orienter, en tout cas à les guider dans leur choix de prescription. Et il y a un certain nombre de projets pour lesquels ils n'auraient peut-être spontanément pas prescrit de surveillance archéologique ou de diagnostic, pour lesquels on les avertit en disant attention, parce qu'on sait bien que ce quartier-là, effectivement, on n'a pas beaucoup d'informations, mais néanmoins, il y a des écrits anciens qui indiquent que, etc. Donc ça, c'était un premier angle d'attaque, c'est suivre au maximum le maximum d'intervention, aiguiller nos collègues de l'État pour faire en sorte qu'un certain nombre de prescriptions ne soient pas oubliées. Alors, il y a toujours des ratés, évidemment. Vous vous rendez compte au bout d'un moment qu'il y a un bâtiment qui s'est construit à un endroit où vous saviez qu'il y avait des vestiges, etc. Ça, c'est toujours les aléas du suivi des dossiers sur les différentes filières administratives. Mais néanmoins, on a essayé de couvrir ça de manière plus précise. Donc, l'archéologie préventive. Ensuite, les données anciennes, il s'agissait de les réexaminer, les réétudier, parce qu'il y a un certain nombre d'études, par exemple, qui avaient été menées dans les années 80 sur des domaines spécifiques et pour lesquels pas mal d'évolutions avaient eu lieu depuis. Donc reprendre les dossiers anciens, les critiquer, les réexaminer. Et puis, dans la mesure du possible, parce que c'est pas toujours très évident à faire quand on est en ville, essayer d'initier une démarche d'archéologie programmée, donc les chantiers de fouilles auxquels vous avez probablement tout un chacun participé l'été. Essayer d'initier des opérations programmées, donc dans un cadre un peu plus, enfin, moins contraint en termes de temps, complexe néanmoins à monter en milieu urbain, parce que vous allez voir pour un certain nombre de cas de figure, il faut trouver l'opportunité, il faut trouver l'endroit, sans compter les financements, etc. Mais là, on avait un intérêt aussi de poser des questions plus spécifiques sur des secteurs où on savait très bien qu'il n'y aurait pas de projet d'aménagement, ou en tout cas ce serait compliqué d'attendre juste que le hasard d'un projet de construction impacte le sous-sol à l'endroit où nous on avait des questions. Et donc du coup l'idée c'était d'aller un petit peu au-delà, cibler ces endroits-là, voir si c'était accessible, parce qu'en ville des espaces facilement des zones de sous-sol facilement accessibles, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez les espaces verts, les zones de place, mais vous ne pouvez pas raser un bâtiment 18e pour autant parce que vous avez une question qui vous intéresse. Et dont la réponse se trouve potentiellement en dessous. Donc voilà les trois axes qu'on essayait de mettre en place depuis une dizaine d'années maintenant, le préventif, la reprise des données anciennes, et puis faire un peu d'archéologie programmée. Donc bien évidemment, moi je n'ai pas travaillé sur ce dossier-là à plein temps. Donc c'est pour ça que le temps passe extrêmement vite. Et entre le moment où je suis arrivé et maintenant, il a fait un certain nombre d'années, mais ce n'était pas du travail à plein temps. Donc, comme je le disais encore une fois, Luc, ce travail-là est sur le point d'aboutir. Ma collectivité auquel j'appartiens avait le souhait de pouvoir justement mettre en avant un certain nombre de publications pour le grand public sur ces questions d'archéologie. Donc, on en a ma collègue Karine Jarret qui travaille sur Vieux, qui est en train de préparer l'ouvrage aux éditions OREP, qui sont des petits fascicules, des petits ouvrages de quarantaine, cinquantaine de pages sur le sujet de Vieux à l'époque romaine. On va le faire pour Bayeux et on a le projet de le faire sur Lisieux dans les prochains mois. D'avoir une sorte de couverture à peu près complète pour le grand public et dans un second temps, mais ça c'est le fait de différents aléas de calendrier, pour Bayeux, travailler sur une publication dite scientifique où ce sera justement le propos, ce sera de remettre à la portée du plus grand nombre, en l'occurrence ici de la communauté scientifique, les différentes études, les différentes approches qu'on a pu faire sur la ville pour qu'enfin on puisse se saisir de ce territoire-là comme d'un exemple et qu'on puisse citer les termes de Bayeux dans des synthèses plus globales, et faire en sorte que ce soit utilisé, critiqué et diffusé. Donc voilà pour ce petit point d'introduction. Avant de commencer, pour continuer de commencer, puis pour être précis, petit point de contexte, de mise en contexte géographique. Bayeux actuellement c'est une sous-préfecture au sein du département du Calvados. On est à 30 km de Caen, à peu près 7 km des côtes de la Manche. C'est la capitale d'une zone naturelle qu'on appelle le Bessin, qui grosso modo occupe toute la partie ouest du département. 13 000 habitants de mémoire au dernier recensement, donc une petite agglomération. Elle s'installe, on va le voir juste après, sur les rives d'une rivière qu'on appelle l'Aure. Cette rivière, donc le centre ancien de l'agglomération se trouve sur la rive ouest, mais actuellement l'agglomération, la commune de Bayeux, la ville de Bayeux occupe les deux côtés de la rivière. Cette rivière-là, elle a cette spécificité, donc on est très près des côtes de la Manche. Elle a un tracé grosso modo nord-sud, enfin sud-nord, pardon. Elle offre à la ville un accès direct, enfin quasi direct. Pour être précis, à la mer, parce que vous êtes assez proche du littoral. On peut imaginer effectivement l'installation de ce site, on le verra à l'époque romaine, à cet emplacement-là, en raison de la proximité avec les côtes de la Manche et en raison de la présence d'une rivière qui faisait un lien avec le littoral. Néanmoins, il y a une petite spécificité topographique, c'est que la rivière disparaît à environ 2,5 km avant d'atteindre la mer dans le secteur de Port-en-Bessin. La rivière disparaît dans un réseau souterrain. Vous avez une grande barrière topographique qu'on appelle la plaine fermée de Port-en-Bessin, avec des points hauts. Et la rivière, en fait, disparaît assez rapidement. Vous avez une résurgence dans le port de Port-en-Bessin. Et sinon, elle va finir sa course dans la mer, donc dans la Manche, par l'intermédiaire de la Vire, au niveau d'Isigny-sur-Mer. Donc vous avez, à un moment donné, très proche du littoral, une rivière qui disparaît, qui réapparaît, qui prend un tracé ensuite directement plein ouest pour ne sortir quasiment à la frontière entre la Manche et le département de la Manche et le département du Calvados. Donc ça implique déjà, à l'époque, on pourra y réfléchir plus tard peut-être, mais que l'accès quasi direct à la mer, c'est le cas, mais on sait qu'un certain nombre d'éléments, de matériaux, de produits qui étaient commercialisés, qui circulaient essentiellement par les voies navigables et par la mer. On sait très bien qu'ils avaient déjà une première difficulté, cette espèce de point de transbordement où ils avaient une petite partie du trajet à faire depuis la côte, depuis le port, vraisemblablement situé sur la côte, enfin, s'il y en avait un port en Bessin, en tout cas, sur la côte, sur le littoral du département actuel, jusqu'à un moment où la rivière devenait navigable et empruntable. Une petite spécificité locale. En ce qui concerne donc, la ville elle-même, ici vous avez un. C'est à peu près clair. Ici, vous avez donc le fonds cadastral, donc les parcelles, les bâtiments de la ville actuelle, sur lequel on a repositionné le tramé rouge. C'est l'extension maximale approximative, parce que c'est toujours sujet à plein d'évolutions, de la ville au Haut-Empire. Grosso modo, courant le deuxième siècle, on est dans une phase d'extension maximale, telle qu'elle nous est perçue actuellement par les points qu'on a pu vérifier. Je vous ai replacé ici en rectangle rouge l'emprise de la ville, en tout cas de l'enceinte qui sera construite à la fin de l'Antiquité. Les zones vertes correspondent aux nécropoles gallo-romaines, qui donc viennent marquer l'extension sur certains côtés du tissu urbain. Et puis, on y reviendra tout à l'heure, les petites pastilles un peu plus rouges foncées, ça correspond aux emprises des interventions archéologiques qui ont eu lieu depuis le milieu des années 80. Donc, la ville actuelle, le centre ancien de Bayeux, se trouve en plein cœur de la ville actuelle. Plutôt sur la rive ouest, là, vous avez le tracé de la rivière Loire qui traverse ici dans un sens sud-nord. Et donc cette ville antique, elle se trouve sous la ville actuelle et elle a cette spécificité, la ville de Bayeux, c'est que c'est l'une des rares, si ce n'est la rare ville de Normandie qui a été pas du tout impactée par les bombardements en 1944. Ce qui fait qu'elle elle est aussi agréable à visiter de nos jours, mais ce qui fait que le patrimoine actuel, essentiellement moderne et médiéval, est protégé pour sa valeur patrimoniale. Et ça implique que ces édifices-là n'ont pas vocation à être détruits. Donc vous avez assez peu, ce que j'ai dit tout à l'heure, assez peu de projets de construction, de destruction avant reconstruction, etc., dans le cœur ancien. On a le cas de figure comme toutes les agglomérations en périphérie pour des zones commerciales, des zones artisanales, mais dans le cœur de la ville, les opportunités de pouvoir accéder au sous-sol, elles sont assez limitées. Et quand ça a lieu, c'est vraiment sur des superficies assez réduites. Donc ce n'est pas une spécificité Bayeux par rapport au reste des villes de France, c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent au milieu urbain. Et là en particulier, le fait que la ville ait vraiment un caractère architectural et patrimonial préservé, conservé, nous facilite pas la tâche pour accéder aux données du sous-sol. Juste pour illustrer, voilà ce à quoi ressemble la ville. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, vous avez une petite orthophotographie qui date de 2006 du centre-ville urbain. Donc ben, vous voyez un réseau de rues assez resserré, un grand axe qui correspond aux rues commerciales, la principale rue actuelle, un alignement de rues qui s'appelle Saint-Patrice, Saint-Malo, Saint-Martin, qui correspond au tracé de l'ancienne voie romaine, enfin d'une des anciennes voies romaines orientées est-ouest qui traversait la ville. Et puis un certain nombre d'espaces, ici une grande place qui marquait l'emplacement d'un château médiéval, on le verra, qui se trouve lui-même à l'angle, un des angles de l'enceinte de la fin de l'Antiquité. Donc voilà, et puis une petite vue rapidement pour vous montrer effectivement le côté très, très, très contraint, très, très occupé du centre-ville, à proximité ici de la cathédrale, avec une vue depuis la rue des Chanoines. Pour passer maintenant un petit peu à l'état de la recherche, ou en tout cas à l'intervention de l'archéologie dans ce territoire. On est, malgré ce contexte spécifique, dans une ville qui, depuis entre 1984 et les derniers chiffres, c'est jusqu'à février 2021, donc les toutes dernières interventions qui ont pu être réalisées, on est dans une agglomération qui a fait l'objet de 104 interventions archéologiques. La plupart de ces interventions, ce sont des diagnostics archéologiques. Donc juste un mot, c'est que dans l'organisation actuelle des interventions, vous avez souvent un projet d'aménagement qui est déposé, un permis de construire, l'État qui décide ou non de mettre en place une surveillance archéologique, donc qui va se passer sous la forme d'un diagnostic où vous intervenez en amont du projet de construction, vous faites quelques sondages, vous vérifiez la présence de vestiges ou non, et en fonction des résultats du projet, il y aura fouille préventive dans la foulée ou pas. Donc à Bayeux, 80% des interventions sont des diagnostics, ça veut dire que vous avez assez peu de diagnostics qui se transforment ensuite en fouille préventive, c'est-à-dire non pas parce qu'il n'y a pas de vestiges, mais soit parce que la réponse apportée sur le sous-sol, en tout cas sur les données présentes au diagnostic, était suffisante, que le projet finalement n'attaquera pas ces vestiges. On a plein de cas de figure différents. On peut avoir une emprise donnée, une superficie où vous avez un projet. Les vestiges ne se trouvent que sur un seul endroit. Il n'y a pas une vocation à fouiller cet endroit-là si le bâtiment il se place à côté et on garde en mémoire la présence des vestiges et puis on fera ça plus tard le jour où le projet pourra impacter cet endroit-là. Donc beaucoup de données accessibles uniquement par les diagnostics. Donc c'est pas non plus c'est un bon outil, c'est le seul qu'on ait pour Bayeux, l'essentiel qu'on ait pour le principal qu'on ait pour Bayeux. Mais ben, c'est souvent, encore une fois, une tirée de sondage sur une emprise, donc vous n'êtes jamais à l'abri de laisser des choses entre deux sondages et de l'interprétation est forcément faussée. La compréhension, elle n'est pas complète sur la zone que vous allez investir. Donc 104 interventions, 70% à peu près de mémoire, 70-80% menés en diagnostic, et à peu près pareil, 70-80% menés par le service archéologie du Calvados. Alors, c'est pas pour faire de la pub, c'est que ce qui est intéressant dans un territoire comme ça, c'est que quand vous avez les mêmes personnes, en tout cas le même service au-delà de la même personne qui intervient, vous avez une connaissance un peu plus fine du secteur. Et c'est vraiment un avantage, parce que c'est pas forcément toujours évident en tant que professionnel d'être projeté sur des endroits différents, des zones géographiques différentes. Et pour les secteurs comme là, où il y a vraiment une compréhension globale à avoir en fonction de ce qui a été fait 20 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt ou la veille, sur la parcelle d'à côté, c'est pas toujours évident quand vous arrivez, que vous ne maîtrisez pas tous les enjeux, de pouvoir bien percevoir tout ce que vous pouvez trouver, d'autant plus quand vous avez que des petits trous de souris pour pouvoir observer les vestiges. Donc voilà pour le contexte. Et puis bien évidemment, cette carte-là, elle complète un petit peu l'autre. Donc vous avez toujours en rouge foncé les zones où nous sommes intervenus, où l'archéologie est intervenue en termes de superficie. Donc à chaque fois, bien évidemment, je prends l'exemple de la médiathèque ici. Ça, c'est la parcelle au sein de laquelle le diagnostic est intervenu. Tout, de fait, pas été décapé. On a une succession de tranchées au sein de cet espace-là. Et là, vous avez une autre couleur qui se rajoute. C'est ces grands aplats un petit peu plus couleur saumon, un peu plus clair. Là, ce sont les entités archéologiques. C'est toutes les données à peu près anciennes qui sont recensées par nos collègues de l'État dans la cartographie des vestiges connus. Anciennement par des découvertes anciennes, un érudit local qui a fait une observation du 19e siècle sur un cimetière à tel endroit, une nécropole et compagnie. C'est recensé, c'est indiqué. Souvent, l'information, elle est un peu moins, non pas moins intéressante, mais des fois un peu moins précise en termes de localisation. On peut avoir dans le quartier Saint-Jean, on a trouvé une urne funéraire ou un fragment de statue, on n'a pas l'adresse, on n'a pas l'endroit, etc. Mais ça reste quand même une information. Donc vous voyez que finalement, pour une ville dont on connaissait assez peu le passé antique, là, je vous ai pas mis. Là, tous les vestiges qui apparaissent quasiment concernent essentiellement l'époque romaine. Et la carte sera encore plus chargée si on mettait les vestiges médiévaux, les rares vestiges proto-historiques, mais les vestiges médiévaux, les vestiges modernes, etc. Donc, il y avait vraiment un intérêt à s'intéresser, à se pencher sur ce dossier. Donc, ces investigations anciennes, elles sont le fruit donc de tout travail, comme je le disais tout à l'heure, d'érudits locaux, de chercheurs, en tout cas de passionnés d'archéologie, d'amateurs. Ça a commencé pour les traces les plus anciennes au 18e siècle, en particulier par un abbé, un prêtre historien qui s'appelait l'abbé Béziers, qui a été l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'histoire sommaire de la ville de Bayeux en 1773. Et ensuite, on a toute une succession de personnes intéressées, dont souvent des notables, qui avaient le temps de se pencher sur ces questions-là, qui ont repris, alors en fonction des auteurs, vous avez des qualités différentes, hein, il y en a souvent qui paraphrasent les auteurs, enfin les propos de l'abbé Béziers 50, 70 ans plus tôt, et puis d'autres qui à chaque fois vont remettre ça dans le contexte par rapport à ces premiers écrits du 18e, mais vont à chaque fois rapporter une petite information en plus. Donc c'est un peu compliqué d'accès parce que vous avez toujours des volume assez important où vous avez quand même peu de choses nouvelles, mais néanmoins, ce travail-là, un petit peu, il permet de mieux récupérer quelques informations ponctuelles. Si on passe maintenant sur le plan historique, mon propos va s'intéresser plutôt à ce qui se passe à l'époque romaine, mais je ne pouvais pas faire un point, en tout cas rapide, à défaut d'être complet, sur la fin de l'époque gauloise. Là, je vous ai reproduit une carte qui date de 2009, qui était issue d'un catalogue d'exposition sur les Gaulois en Normandie, qui s'appelait Gaulois sous les pommiers. Pour l'époque gauloise, alors on sait que la région à l'époque, elle est donc on est là au premier siècle, en gros premier siècle avant Jésus-Christ, elle est occupée cette région par un peuple qu'on appelle les Bayocas. Alors la mention de ce peuple, la première mention textuelle, elle est assez tardive, elle remonte au deuxième, enfin la deuxième moitié du premier siècle après Jésus-Christ. C'est l'auteur latin Pline l'Ancien qui nous en parle. Donc lui, il utilise le terme Bodiocas, mais voilà, en gros, Bayocas, Bodiocas, le Bajocas aussi, vous pourrez trouver dans les différentes publications. On est sur cette appellation-là. Un territoire qui se trouve donc dans la zone du Bessin actuel, entre le littoral. Il y a un grand certain nombre d'interrogations qui se posent sur le fait que César, dans ses commentaires sur la Galle des Gaules, ne cite pas cette cité, ni la voisine, les Viducas. Il ne cite comme peuple dans cette zone géographique, en tout cas ici en particulier, que les Hésuviens, en plus des Lexoviens sur Lisieux. Donc une des théories, une des hypothèses, ce serait effectivement que le peuple Bayocas et les peuples Vidukas n'apparaissent en tant que tels, en tant que cités, indépendantes en quelque sorte, qu'à partir de la conquête romaine. Probablement dans le cadre de la réorganisation administrative à partir de l'empereur Auguste, donc on est autour du changement d'ère. Donc soit vous avez un premier peuple qui s'appelait les Éluviens, dont une sous-partie des Bayocas pourrait avoir occupé le territoire. Ça pose aussi une question par rapport au monnayage, parce qu'on a assez pas forcément beaucoup de données sur l'organisation du territoire à l'époque gauloise de ce territoire Bayocas, mais on a un monnayage qui est assez bien connu et assez diffusé dans le nord-ouest de la Gaule. Donc, pour cette période, sur le site de Bayeux, on n'a quasiment aucune trace d'occupation. On a quelques éléments mobiliers, mais on n'a rien de structuré. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on a peu d'opportunités d'aller voir dans le sous-sol. Là, vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. C'est encore plus vrai pour les zones les plus profondément enfouies. Donc, plus c'est ancien, plus c'est enfoui. Les vestiges de cette période-là ne sont pas forcément toujours très, très visibles et très appréhendables dans des sondages de quelques mètres carrés. Donc, on est un petit peu entre les deux. A priori, on a, pour le moment, dans l'état actuel de nos connaissances, pas de traces de structuration claire et nette. Il n'y a pas de ville gauloise en l'état actuel connue sous Bayeux avant l'époque romaine. Donc on part sur le principe d'une création romaine de l'implantation de la ville à cette période romaine. Donc on verra dans quelques instants un peu plus sur les éléments de chronologie. Donc on a sur vraisemblablement une création romaine, mais dans un territoire qui a quand même livré des traces d'occupation de l'époque athénienne. On a une succession donc de sites d'habitat à la campagne, de sanctuaires, de sites de hauteurs fortifiés. On a également un oppidum. Alors on ne sait pas quel était forcément, et si à condition qu'il n'y en ait besoin que d'un seul, quel était l'oppidum principal, la capitale à l'époque gauloise du territoire. On a longtemps parlé effectivement du site qui se trouve sur la commune de Catillon, du Catillon, on est à une dizaine de kilomètres au sud de Bayeux, où on a un ensemble qui a été fouillé partiellement, en tout cas, dont le rempart a été fouillé au 19e siècle, par tronçon, mais un site qui est assez mal connu. On aurait là, a priori, une occupation gauloise sur un site de hauteur fortifiée, probablement un oppidum vu la fortification. Je pense aussi également dans toute une série de sites de hauteur, et en particulier, alors même si les traces de l'âge du fer ne sont pas les celles les plus manifestes, mais au niveau de Port-en-Bessin, les fouilles menées par nos collègues de l'INRAP, notamment Cyril Marcigny, Anthony Lefort, vous avez justement cette position haute juste au bord de la côte où ils ont mis en évidence une occupation militaire romaine avérée du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on serait vraiment une occupation contemporaine de la conquête des Gaules. Quelques traces antérieures de l'époque de l'âge du bronze. Il y a fort à parier qu'il y ait une occupation assez importante aussi probablement à l'époque gauloise. Toujours est-il qu'on ne sait pas trop, et je sais qu'on s'interroge beaucoup sur le fait qu'il y ait vraiment une seule place forte qui contrôle l'ensemble du territoire. Mais en tout cas, à retenir, un territoire qui est occupé, qui est aménagé, un certain nombre de sites qui sont connus par les fouilles préventives et programmées, mais pas de vestiges majeurs sous la ville de Bayeux. Donc on parle plutôt sur une fondation à l'époque romaine. Je resume maintenant sur le cœur de la ville. Donc là, j'ai centré un peu les premières cartes que je vous avais montrées sur le centre-ville avec l'extension maximale, donc en transparent un peu rouge, de la ville au Haut-Empire, donc entre le 1er et le milieu du 3e siècle après Jésus-Christ. Je remets quand même comme indicatif, enfin, comme repère, l'enceinte tardive, donc qui, elle, ne s'installera qu'à partir de la fin du 3e siècle, début du 4e siècle, pour que si vous vous repérez entre ce qui est, sera intramuros et ce qui deviendra extramuros au fur et à mesure de l'évolution de la ville. Alors, quelques généralités. La ville au Haut-Empire, on l'appelle Augustodurum. Elle porte le nom de l'empereur Auguste. Étymologiquement, ça peut se traduire comme la porte d'Auguste, la place d'Auguste, le marché d'Auguste. Un certain nombre d'agglomérations en Gaule qui portent des noms similaires. Il y a Autun avec Augustodunum. Clermont-Ferrand, etc. Enfin, plusieurs agglomérations qui se mettent sous le patronage d'un empereur. Donc, ça ne signifie pas pour autant que la ville a une fondation officielle à l'époque augustéenne. On peut envisager une fondation un peu plus tardive, éventuellement, même si 50 ans après la conquête des Gaules, sous le règne de l'empereur Auguste, on est à un moment où on réorganise les Gaules, on réorganise les territoires, les cités, les provinces, etc. Et que ce réseau d'agglomérations qui se développe et qui prennent la tête de. Enfin, qui sont structurés, vraisemblablement, c'est quelque chose qui se met en place au moment de cette réorganisation administrative. Donc, même si on n'en trouve pas, vous allez voir les traces archéologiques précises de cette période-là. Donc, c'est un chef-lieu de cité, donc elle contrôle tout un territoire autour autour de la ville. Donc, le territoire des Bayeucas, et c'est au sein d'une province plus importante qu'on appelle la province de Gaule lyonnaise, qui va grosso modo du Finistère actuel, de la Bretagne, qui forme une sorte de banane, une couronne, qui suit le cours de la Loire, et qui va jusqu'à la ville de Lyon. Chronologiquement, les traces les plus anciennes qu'on ait pu observer pour cette période-là, donc pour fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, début du 1er siècle après Jésus-Christ, eh ben, elles remontent pour les traces les plus anciennes à l'époque augustéenne. Donc on est vraiment à la transition au changement d'ère, mais c'est essentiellement des éléments mobiliers. On n'a rien de structuré, on n'a pas de bâtiment, pas d'aménagement particulier. C'est vraiment des objets, une monnaie par-ci, quelques éléments céramiques par-là, dans des contextes pas forcément toujours très bien définis. Les premières structures, les premiers aménagements un peu plus pérennes, on les observe un peu plus tard, enfin, sous les règnes de Tibère et de l'empereur Claude. On a des traces un peu plus précises, entre 14, 54, le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Bon, là, on a les premiers aménagements visibles. La superficie maximale, elle est estimée autour de 40-50 hectares. Je préfère justement rester dans une fourchette à peu près floue parce que on voit qu'en fonction des opérations, ça peut varier. Mais c'est dans la même mesure, dans la même moyenne que les autres agglomérations de la même période dans la région. Vous avez des cas de figure exemplaires comme Reims, qui fait 550 hectares, qui est la ville la plus étendue en dehors de Rome, dans le nord de l'Empire romain. Mais la moyenne des agglomérations pour des cités de cette superficie-là tourne souvent autour de 35, 40, 50 hectares, un peu plus pour d'autres, mais c'est quelque chose d'assez commun. En ce qui concerne les généralités de développement de la ville, on a aussi la mesure, au fur et à mesure des interventions, on est en mesure de pouvoir indiquer qu'à partir de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et le début du 2e siècle après Jésus-Christ, donc entre 80 et 120, très très largement, on est dans une phase de monumentalisation. On a une première ville qui existe déjà, mais on a toute une série d'indices qu'on observe quasiment systématiquement quand on a l'opportunité d'avoir des zones assez ouvertes. On voit qu'on change de façon de construire, on passe de bâtiments plutôt matériaux périssables à des matériaux en maçonnerie, en pierre. Les édifices sont rasés, reconstruits au même endroit, avec les mêmes fonctions, mais avec un standing différent. Donc on a justement dans cette période-là une sorte de phase de développement et de monumentalisation de la ville. J'en parlais tout à l'heure quand on abordera la place du Forum, on a l'impression d'avoir une sorte de place d'emplacement réservé pour le Forum dès le début du 1er siècle après Jésus-Christ, mais qui se présente sous la forme d'une espèce de cailloutis, avec des recharges de cailloutis. Et pour le coup, peut-être au moment où la ville a enfin les moyens de se plier à ce canon architectural et d'aménagement typiquement romain, vers la fin du premier, début du deuxième, on passe à une belle place dallée, quelque chose de beaucoup plus massif, qui perdurera quasiment jusqu'à la fin de l'Antiquité. Globalement, on a comme source d'information des points d'information plutôt dispersés, des mentions anciennes, je vous l'ai dit. Mais l'ensemble atteste d'ensemble assez riches, assez bien conservés dans le sous-sol, même si on n'a que peu l'occasion d'aller les voir. On a par contre une lacune assez importante par rapport à d'autres agglomérations, c'est le fait qu'on a du mal à restituer le réseau des rues. Vous avez cette image-là des rues des villes antiques avec des réseaux orthonormés très réguliers qui structurent la ville. Là, on a beaucoup plus de difficultés parce qu'on n'a pas eu l'occasion de tomber fréquemment sur des axes routiers. Donc on retrouve cet axe-là principal ici qui a été en fait identifié par le tracé dans la ville, par le fait qu'il co correspond aux voies antiques qu'on trouve dans la région, qui se raccorde parfaitement sur cet axe-là au niveau de la ville. Mais je l'ai mis en pointillé pour être tout à fait honnête dans le cœur de la ville, parce qu'on ne l'a jamais observé, cette chaussée romaine. Il y a une mention ici du 19e siècle, au fond d'une cave, d'un cailloutis, etc., tout ça, qui nous arrange bien, ça se tombe juste au bon endroit, sur le bon tracé. Mais physiquement, on l'a rarement observé. Et les rares fois, on a pu observer des chaussées, des rues, etc. Manque de chance, elle ne tombait pas dans ce système de carroyage un peu régulier. On a eu l'occasion de faire des interventions archéologiques autour du musée de la tapisserie. On est tombé sur des chaussées, mais pour le coup, elles n'ont pas du tout la bonne orientation. Elles sont quand même romaines, mais a priori, c'est parce qu'il doit y avoir un point de passage au niveau de la rivière, un gué ou un pont, qui fait que vous n'avez pas systématiquement un pont au bout de chaque rue. Donc au bout d'un moment, ce point de passage-là entre les deux parties fait que les rues s'orientent en fonction de ce point de passage-là. Donc cet élément-là, on est très content de l'avoir. Pour le coup, il ne peut pas nous servir pour essayer de mesurer une dimension un peu théorique d'îlot d'habitation, d'insula, et de faire des reports un peu théoriques pour au moins savoir où aller voir en particulier pour retrouver des voies. Donc, on en sait plus sur les extérieurs pour les voies qui sortent de la ville, mais à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Si on passe maintenant sur. Voilà, juste pour vous montrer l'intégration de Bayeux qui se trouve ici. Un réseau de voies beaucoup plus large, donc qui met la ville en relation avec bien évidemment son territoire, le territoire qu'elle administre, toutes les cités alentours, les Unelles, les Imbrincates côté ouest, les Viducas, les Exoviens, etc. Et la ville se situe sur cet axe-là qu'on appelle le chemin haussé, qui mène grosso modo de la péninsule de Cotentin, qui traverse le Bessin, qui passe par Vieux et qui descend ensuite et dont on suit le tracé à travers tout le département de l'Orne et qui va en direction de la région de Chartres. Donc une grande voie, ce n'est pas la voie domitienne ou des voies aussi connues et célèbres qu'on peut trouver dans le sud de la Gaule ou le réseau d'Agrippa. Néanmoins, c'est un alignement de différents axes routiers qui font un grand transect qui traverse tout le nord-ouest de la Gaule et Bayeux se situe sur cette voie de circulation. Avant d'en arriver vraiment à l'archéologie stricto sensu, quelques indications textuelles. Donc, on a quelques renseignements assez peu nombreux pour le Haut Empire, un peu plus pour l'Antiquité tardive, fournis par les textes. Donc, je vous ai parlé de cette mention de Pline l'Ancien qui nous parle du peuple des Boudiocas à la fin de l'époque gauloise, au début de l'époque romaine. On a aussi ce document qui s'appelle donc la carte ou la table de Peutinger, qui est une copie médiévale du 14e d'une carte routière antique. Alors, ce n'est pas une carte routière à l'image de nos cartes contemporaines, je pense que vous le savez déjà, ce n'est pas une représentation graphique réaliste des voies entre elles. Vous avez, juste pour vous indiquer ici, donc là, dans le cercle vert, vous avez la mention de la ville Augusto-Douro pour Bayeux. Vous avez Vieux ici à côté. Mais là, vous avez les Cadurques. Les Cadurques, c'est la région de Cahors. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de déformation un petit peu. C'est toute une série de parchemins, du moins il doit y avoir 11 ou 12, qui vous indiquent les principales voies romaines, quasiment de l'Écosse actuelle, enfin des confins de l'Écosse, jusqu'à l'Empire, enfin jusqu'à la partie orientale, la province de Syrie romaine, etc. Quelque chose qui se présente plus tôt. L'image est assez intéressante, je l'ai trouvée il y a quelques mois, comme une sorte de plan de métro. Quand vous vous promenez, vous avez le plan du réseau, qui est sur un format rectangulaire. Là, c'est le même principe, il ne faut pas chercher une réalité géographique entre les deux, mais une mention néanmoins de cette ville. Et c'est à peu près tout pour l'époque, pour le Haut Empire. Donc on a ces mentions textuelles qui nous indiquent effectivement l'existence de l'agglomération, en plus des indices archéologiques, mais c'est finalement assez maigre. On passe ensuite aux principaux bâtiments. Si vous me permettez, je vais vous présenter maintenant toute une succession d'édifices, d'abord les bâtiments publics. Alors ça va aller néanmoins assez vite dans le sens où les données sont parcellaires, on a surtout du mal à identifier des fois les vestiges qu'on trouve. Donc on a plusieurs zones d'observation où on sait qu'on a des choses. Déterminer s'il s'agit d'un habitat, d'une maison particulière, d'un ensemble thermal, d'un bâtiment public, c'est des fois assez complexe. Donc on a la chance d'avoir observé, en tout cas d'avoir identifié deux ensembles thermaux, a priori la place du forum. Un arc monumental qui n'est pas un édifice en tant que tel, mais qui est un élément de parure qu'on a retrouvé démonté dans un remblai et qui nous indique aussi la présence de ce type d'édifice dans la ville. Je ferai un petit aparté sur deux zones d'habitat de manière très rapide parce qu'elles sont assez. Vous verrez que les habitats n'ont pas été perçus intégralement. Et puis malheureusement, plein d'interrogations encore sur lesquelles je reviendrai après. Donc là, le premier ensemble thermal que je vous présente, c'est un ensemble qui se trouve au niveau de la rue Saint-Laurent. Vous êtes au nord de la ville. Un ensemble qui se trouve sous l'église actuelle, enfin sous l'ancienne église dédiée à Saint-Laurent, qui est devenue l'auditorium de la ville de Bayeux pour des conférences, des spectacles, etc. Donc c'est un édifice qui a été, dont on a une première mention dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, vers 1760. Lié à l'effondrement du mur du cimetière et les travaux qui sont engagés, on observe des vestiges, etc. Et puis il y aura plusieurs campagnes de sondage par la suite. Et au final, entre les interventions 18e siècle et puis une succession d'interventions au 19e, on réussit à relever l'ensemble de ces vestiges autour de l'église sur cette partie-là. Les derniers travaux en question, ce sont des travaux qu'on a nous repris dans les années 2014-2015, où on a tenté une prospection géophysique avec un radar, mais sur lequel je reviendrai autour, pour observer si de mieux compléter le plan, mais ça a été pas forcément. On a eu des résultats, mais pas forcément ceux escomptés. Donc, cet ensemble de vestiges a été fouillé à plusieurs reprises. pas forcément de manière très très large à chaque fois, mais le rassemblement de ces différentes données permet d'aboutir à ce plan. Énormément de mobilier, d'éléments de plaquage de marbre, d'éléments des fragments de colonnes, d'éléments mobiliers. Alors, on a des données qui correspondent à des écrits 18e, 19e, donc ils n'ont pas forcément à l'époque un intérêt très poussé pour la stratigraphie, pour les fragments de céramique qui ne sont pas très impressionnants. Donc, on parle surtout des monnaies, des fragments de marbre, des choses comme ça, mais ça nous donne un certain nombre de renseignements néanmoins. Et notamment dans ses écrits, toute une série de plans, de représentations qui sont assez belles esthétiquement, qu'il faut savoir manier avec précaution parce que autant vous avez des plans comme ici, la version des fouilles en 1822, qui ont permis d'ouvrir toute la zone le long de l'église, avec un certain nombre de pièces, de salles, de l'ensemble thermal qui ont pu être identifiés, des restitutions, des coupes, avec des restitutions de fonctionnement du four ou du polyphonium pour alimenter la pièce chaude, etc., etc. Mais aussi des restitutions un peu plus, en tout cas libres, on va dire, de bâtiments avec des rotondes, des choses comme ça qui sont juste des suppositions et qui n'ont pas été vérifiées par la suite. Donc toute une série de documents qui nous renseignent sur cet établissement. Et bah, comme je vous le disais, on a eu l'occasion de, sur ces deux gros dossiers, parmi le travail de reprise des données, on a travaillé en 2015 sur les ensembles thermaux de Bayeux, donc celui-ci et puis l'autre que je vais vous présenter de la rue Laitière dans quelques instants. On a mené en parallèle des prospections géoradar par l'intermédiaire de collègues qui travaillaient à l'Université de Paris 6 à Jussieu en géophysique, qui cherchaient des zones pour tester leur matériel. Nous, on cherchait à moindre ferré des personnes pouvant tester, vous nous apporter des renseignements. Donc là, ça n'a pas été très fructueux sur toute la zone de la rue. À l'époque, on n'avait pas compris encore pourquoi, parce que le signal était très perturbé au niveau de la rue sous laquelle passait, en tout cas, on avait vu au XIXe siècle des vestiges. Mais ce que l'on ne savait pas, et ce que personne nous avait indiqué, notamment à la ville, c'est qu'il y a eu un désaffaissement, il y a eu des réseaux, des égouts qui ont été refaits en 2007, un peu de temps avant que j'intervienne, et ça n'avait pas été suivi à ce moment-là par le service. Affaissement du réseau, les maisons qui commencent à s'ébouler dans la tranchée, donc ils ont littéralement rempli, décaissé la rue et tout rempli avec du béton. En 2007-2008, avec un procès entre l'aménageur et l'entreprise de terrassement et la ville, bref. Et ça, on l'a retrouvé dans les archives de Ouest-France. Personne n'avait. C'est quand même assez intéressant de s'intéresser à ces sources-là. Ce qui explique pourquoi le signal radar il était complètement non viable dans ce secteur-là. Néanmoins, le fait qu'on ait pu sonder, en tout cas passer le radar autour de l'église, nous a permis, donc même en ville, c'est toujours très compliqué à interpréter parce que c'est quand même, il y a plein de réseaux, plein de perturbations. Là, en l'occurrence, c'est des zones qui ont été bétonnées pour faire des circulations autour de l'église pour que les gens puissent accéder à l'auditorium. Mais on retrouve très, très maigrement, mais ça très, très légère, une série de murs. Alors, vous avez ici à chaque fois en rouge ce qui apparaît plutôt comme résistant, donc en théorie plutôt des choses maçonnées, des choses construites, et en bleu les zones qui ont été brassées, excavées, etc. Alors, ça ne veut pas dire que sur toute cette zone-là, qui apparaît très brouillée, il n'y ait pas des murs de conservés, mais en tout cas, le brassage des éléments ou toute cette série de choses enfin, empêche le signal de bien pénétrer. Voilà. Mais ces quelques petits bouts de murs, là, petites traces qu'on observe à différentes profondeurs, nous ont quand même permis de recaler précisément le plan ancien dont je vous ai montré un certain nombre de plans, et on sait très bien que ce n'est pas toujours très précis. Ça nous a permis de pouvoir recaler ça par rapport au cadastre actuel et de savoir précisément qu'est-ce qui se trouvait où. Et en plus de ces travaux, donc on a aussi ben, repris les données anciennes et pour aussi déterminer l'interprétation, ce qui n'était pas forcément mené à l'époque. On a quelque chose de très descriptif. Là, on a travaillé un petit peu, le plan est un peu pixelisé malheureusement, mais on a travaillé un petit peu sur la définition des différentes pièces. Donc avec ici une salle chaude sur pilette, avec un système de chauffage par hypocauste. La salle de chauffe qui se trouve à côté avec la zone où il y a le foyer pour produire la chaleur. Une piscine chaude ici, un bassin situé sur pilette donc pour où l'eau était chaude. Une piscine froide à côté. Après, vous avez toute une série de pièces pour lesquelles les fonctions sont plus difficiles à déterminer parce que vous n'avez pas d'éléments caractéristiques pour chaque pièce. Donc vous pouvez avoir un espace où on se déshabille, un espace de transition, un couloir. Néanmoins, avec ces différents vestiges, on arrive à envisager le fait que vous avez un ensemble thermal. Il y avait différentes questions qui se posaient, au-delà de réussir à définir quelle pièce sert à quoi. La superficie, on est sur près de 1500 mètres carrés, donc ça veut dire qu'on est clairement dans un bâtiment qui est un bâtiment public. On n'est pas dans un ensemble d'un balnéaire qui appartient à une maison ou à un particulier. C'est quelque chose qui correspond à un bâtiment public. Alors la difficulté, c'est qu'on a du mal, encore une fois, à le placer précisément. On l'a placé par rapport à la ville actuelle, mais on ne sait pas où se trouvait la rue romaine qui servait à desservir, qui servait à l'accès de cet édifice. On sait que la rivière passe dans ce secteur-là. On sait que l'orientation du bâtiment, cette légère orientation légèrement nord-est, nord-est-sud-ouest, elle correspond au tracé de la rue principale de la ville. On a quelque chose qui est assez cohérent. Les quelques tronçons de rue réguliers qu'on a pu trouver, pas celles qui partaient dans le sens qui nous intéressait pas, mais les autres, on est dans cette orientation-là. Et donc, on a un édifice qui fait 1500 mètres carrés, qui a priori est limité de ce côté-ci, du côté nord-ouest et nord-est ici, par un égout qui doit faire le tour pour récupérer les eaux et ensuite les évacuer vers la rivière. Donc, la grande hypothèse, c'est qu'il se développe en grande partie de ce secteur-là. Et donc, voilà, un état d'établissement public. Au-delà de la superficie, c'est toute l'ostentation du décor qui était mise en œuvre. Et pour vous replacer dans la ville, on est ici. Donc, on est à la périphérie nord-est de la ville, donc en périphérie de l'espace urbain. Et à la relecture des données un petit peu anciennes, au moins deux états successifs de ce bâtiment, en fonction au moins du deuxième siècle, probablement encore une fois à partir de la fin du premier siècle. Et je vous reviendrai tout à l'heure sur son devenir. Il se situe en dehors de la ville de la fin de l'Antiquité, en dehors du rempart. Et il est détruit vraisemblablement au moment de la construction du rempart. On est vers la fin du IIIe siècle, entre 280 et 320, à très grosse louche. Et il paraît inconcevable de laisser un édifice comme ça en dehors de l'emprise urbaine, en dehors de l'enceinte urbaine, parce que ça peut vous faire un point, même si les enceintes urbaines, on y reviendra, n'ont pas forcément qu'une vocation défensive. Laisser un bâtiment aussi important à moins de 70 mètres de l'angle de la fortification, c'est pas forcément très opportun en termes stratégiques. Donc c'était un édifice pour lequel on n'a plus d'occupation à partir de la fin du 3e, début 4e. Quelques monnaies, probablement liées à la réoccupation des lieux, on pense pour venir récupérer des matériaux, mais rien de plus important. Contrairement à ce bâtiment-ci, donc là, c'est l'autre ensemble thermal que je vous présente. C'est un ensemble thermal qui se trouve rue Laitière. On est sous la mairie actuelle. C'est un édifice qui a été trouvé à la fin du 19e siècle, en 1882, au moment où ils ont construit, à l'époque, ce n'était pas la mairie, c'était un hôtel pour les postes, pour la poste. Ils ont construit un bâtiment. En décaissant, ils sont tombés sur des vestiges romains. Ils ont eu la bonne idée de relever en plan ces murs et surtout de s'appuyer dessus pour reconstruire le bâtiment qu'ils avaient projeté. Ce qui fait que dans les caves actuelles de l'état civil, de la mairie, vous avez conservé, je vais vous montrer quelques photos, une série de murs antiques sur lequel le bâtiment 19e vient, sur lequel le bâtiment 19e vient se poser. Donc la première zone qui a été trouvée, donc c'est cet ensemble-là de vestiges ici, trouvés au 19e siècle. Et par la suite, dans le cadre d'un projet d'aménagement qui n'a pas abouti, le service archéologique du département a mené une fouille sur un tout secteur de 100 mètres carrés ici, dans le jardin, dans la cour, à l'arrière du bâtiment. Et on a pu retrouver une autre partie du bâtiment, donc en l'occurrence une petite ruelle, et vous retrouvez cette orientation nord-est-sud-ouest, qui est attenante à une pièce fonctionnelle ou qui correspond à une sorte de salle de chauffe, où vous stockiez le combustible et vous organisiez les foyers pour chauffer les pièces se trouvant dans cette zone-là. Et vous avez deux ouvertures, deux prailles fournia qui alimentaient, qui servaient au chauffage par le sol et par les murs des espaces contigus. Donc là, encore une fois, deux interventions, quasiment 100 ans de différence entre les deux, et en recalant précisément les plans, on réussit à comprendre l'articulation des deux. Là, quelques illustrations. Donc, on a aussi moins que pour les termes de la rue Saint-Laurent, mais on a un ensemble de plans un petit peu anciens qui recalent les différents bâtiments, les différentes pièces. Là, c'est une maquette qui a été réalisée dans les années 80, qui nous était fort utile parce que les données des années 80, c'était une fouille qui s'est menée, une fouille de sauvetage avec beaucoup de bénévoles qui s'est menée sur plusieurs mois, avec un suivi qui était parfois, on sentait dans la lecture des différents rapports, en tout cas de différentes fiches de fouilles d'enregistrement, que des fois il y avait des temps, il laissait passer 2, 3 mois avant de revenir sur le terrain, donc pour le coup, c'était pas très très continu. Et il y avait plein de choses qu'on n'avait pas bien compris, qu'il n'avait pas bien pu comprendre à l'époque parce que le niveau de connaissance était celui qu'il était. Et l'hypothèse qui était avancée, c'était que vous aviez un ensemble thermal qui était détruit par un incendie à la fin du IIIe siècle, classique, hein, et que finalement, on réensevelissait à partir du 11e, au moment où on reconstruisait une partie de la cathédrale. Voilà. Donc on avait un hiatus de quasiment un demi-millénaire, enfin plusieurs centaines d'années entre les deux, avec cette idée que le vestige serait resté à l'air libre, sans occupation, en plein centre-ville, c'était assez peu probable. Et cet état de fait était lié au fait que quand ils ont fouillé ce volume de terre, ben, c'était pas les mêmes personnes qui revenaient fouiller à chaque fois, ils refouillaient toujours à plat, donc c'était assez bien enregistré, c'était très bien mené, mais ils ont mélangé le mobilier des couches en place de celles de grosses fosses venues recouper ces niveaux, notamment pour récupérer les pierres en parement des murs. Et ils avaient à chaque fois du mobilier 11e qui arrivait dans chacune des couches jusqu'en bas. Donc ils se sont dit, le site a été remblayé 11e. Or, quand on reprend un petit peu plus finement la stratigraphie, mais noir sur noir, c'était pas forcément évident à voir à l'époque, sans problématique sur les terres noires et sur ces types d'occupation et stratification. On s'est rendu compte qu'il y avait bien toute une série d'une stratification de la fin de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge. Donc on réoccupait, j'y reviendrai tout à l'heure, le bâtiment à la fin de son abandon, de sa fonction thermale. On l'a réoccupé jusqu'au XIe, où là on est venu pour le coup détruire l'édifice et l'enfouir et le cacher à la vue du quartier. Donc un ensemble assez intéressant. Et encore une fois, la définition de différentes pièces en reprenant les plans anciens et puis les données anciennes et les données des années 80. Là, la salle de chauffe, qui sert par l'intermédiaire de deux ouvertures à chauffer un espace qui n'a pas été vu, mais qui se trouve vraisemblablement entre les caves actuelles et le jardin. La petite ruelle. Alors la fonction de la ruelle, on ne sait pas trop si c'est une ruelle uniquement une voie de desserte intégrée au terme, et si, dans ce cas-là, si l'ensemble thermal se poursuit encore au-delà, ou si pour le coup c'est une limite et qu'au-delà, un autre type de bâtiment. Ça, c'est une interrogation qu'on se pose. Et puis différents édifices ici, donc une pièce chauffée, mais je vous montre tout de suite les photos qui sont plus intéressantes, prises dans le sous-sol de la cave, dans le sous-sol de la mairie. Donc vous avez là les murs romains. Alors on distingue un peu ici des encastrements pour les tubuli, pour ces briques creuses dans lesquelles l'air chaud circulait dans les murs. Et ils sont venus reposer le bâtiment 19e dessus. Donc vous vous promenez dans les caves et vous avez des murs romains qui cloisonnent les caves. Vous pouvez descendre par une petite trappe ici, vous avez accès au Praefurnium et vous regardez sous, à côté vous avez un bassin ici qu'on construit dans une autre pièce avec des petits gradins pour s'asseoir dans l'eau chaude. Et on sait que c'est de l'eau chaude parce que pour le coup, en coulant par une petite trappe ici, vous avez accès aux pilettes et à l'hypocauste qui est encore conservé, qui servait justement à alimenter, à chauffer le bassin d'eau chaude dans la pièce à côté. Un ensemble thermal qui, lui, va s'étendre sur environ 600 mètres carrés, mais qui, néanmoins, par rapport à sa superficie et à la facture de la construction, on est encore une fois sur quelque chose d'un bâtiment public, et pour le coup, ici, plus au cœur de la ville. Et on reviendra tout à l'heure sur sa vocation, en tout cas l'évolution de son occupation à l'Antiquité tardive, et un ensemble thermal qui fonctionne, grosso modo, encore une fois, entre le deuxième, troisième, fin troisième siècle après Jésus-Christ. Donc voilà pour les deux gros ensembles bien documentés de la ville. Passe à un troisième ensemble qui n'est pas un édifice en tant que tel, mais qui est un ensemble de 20 blocs sculptés, 20 blocs d'architecture, qui appartiennent à un arc monumental. Ce n'est pas une porte, hein, c'est plutôt un arc monumental qu'on date stylistiquement et par comparaison typologique de l'époque sévérienne. Donc on est entre la fin du 2e siècle, première moitié du 3e siècle après Jésus-Christ, entre 193 et 235. Donc vous avez des blocs d'archivolte, des pilastres, un fragment de colonne engagée. C'est toute une succession de blocs qu'on n'a pas retrouvé en place. Ce n'est pas un édifice qu'on a déterré. C'est un ensemble de blocs qui ont été retrouvés au 19e siècle en deux phases, le long de la cathédrale, le long du côté sud de la cathédrale. Vous avez en fait toute une succession de donc qui étaient stockés ensuite dans un dépôt lapidaire et que vous pouvez maintenant voir pour les plus beaux d'entre eux au sein des collections du musée Baron Gérard d'art et d'histoire de Bayeux. Quand ça rouvrira un jour, vous pourrez voir ça ou alors en visite virtuelle. Vous avez ces blocs qui ont été reconstitués dans les salles. Donc toute une série de un ensemble de 20 blocs trouvés en deux temps. D'abord par un petit sondage au niveau du chevet où ils avaient besoin d'enterrer un paratonnerre pour la cathédrale. Donc ils ont trouvé toute une succession de blocs. Donc là on est en 1828 et en 1850-1851, quasiment 25 ans plus tard, ils retrouvent d'autres blocs. Et là, cette petite figuration, je me suis permis de l'indiquer parce qu'il y a des blocs qui ont disparu. Et là, vous avez notamment un bloc qui a disparu, qui a été trouvé en 1829, dont on n'a plus que le dessin, et qui colle parfaitement avec un autre bloc. Donc je ne sais pas si c'est assez sombre, mais vous avez un griffon aussi qui est représenté avec les ailes, la tête qui est manquante et la queue qui est entrelacée avec un autre élément qui correspond en fait à ce bloc-là qui a été trouvé 25 ans plus tard à côté, qui est conservé lui et qui est présenté au musée. Et vous avez là l'arrière-train du griffon avec la queue partiellement conservée qui faisait la jonction avec les deux claveaux qui étaient jointifs du monument. Donc encore une fois, on intervient sur le même terrain avec quelques années de différence, et on réussit des fois à avoir des surprises de ce type-là. L'édifice en tant que tel, donc 20 blocs en tout, on a un élément qui datait, donc, comme je vous l'ai dit, de l'époque sévérienne. Ce n'est pas des blocs qui étaient en place, donc il n'y avait pas de mobilier associé. C'est vraiment le style de la décoration, de la sculpture qui permet de renseigner la comparaison avec d'autres types d'édifices. Donc on a un ensemble de blocs qui correspondent tous au même monument, même si vous avez des formes différentes. Là où on s'est essayé à une petite restitution du type de bâti du monument, on sait que c'est un édifice qui comportait trois baies, donc une baie centrale plus importante et associée à deux petites baies latérales. On a vraiment à peine. Alors, ces travaux-là ne sont pas les miens, ce sont ceux de Yvan Méligorne qui travaille sur l'architectonique, les décors architectoniques à l'époque romaine, qui travaille à l'université de Brest et de Quimper. Et il a réussi, à partir du travail de lieu de découverte de ces blocs et lui de remontage par rapport aux angles des arcs, etc., à déterminer que ça venait bien d'un seul édifice, d'un seul monument, et d'avoir l'idée générale du bâtiment, de cet édifice, à partir de, je crois, à moins de 5% des blocs. Mais néanmoins, la façon dont ils sont positionnés, dont ils s'agencent entre eux, le décor, vous pouvez partir de quelques nombre d'éléments, proposer une restitution de ce type-là. La spécificité aussi de cette datation, donc elle tient à la typologie. On a comparé d'autres types de bâtiments, d'autres types de portes et d'arcs monumentaux dans l'Empire romain. Et aussi, il y a des petites spécificités au niveau de la sculpture. Là, vous avez, donc c'est un décor essentiellement de rinceaux de vigne. On est sur un thème dionysiaque qui fait référence donc, du coup au culte de Dionysos, de Bacchus. On est dans un. Donc, c'est caractéristique, hein, les rinceaux de vigne. Vous avez des boucliers comme ici suspendus par des rubans, des griffons, etc. Ça renvoie à toute une série de décorations qui sont en lien avec l'idéologie impériale de l'époque romaine, l'abondance, la félicité, etc. On ne sait pas forcément si l'édifice était dédié à un empereur ou à un événement particulier, mais en tout cas, on est dans cette dynamique-là et ça se retrouve dans différents édifices. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, c'est un petit détail, mais dans la façon dont sont sculptés, dont sont créés les rinceaux de vigne, on retrouve des similitudes extrêmement nettes avec un décor qui se trouve dans la maison Grand Péristyle à Viollat-Romaine, avec des rinceaux de vigne et la façon tout à fait spécifique, selon Yvan, du dessin, de la sculpture de ce rinceau qui se sépare en trois branches comme une sorte de trident. Donc là, vous avez un claveau, un exemple d'un claveau à Bayeux. Et là, vous avez l'exemple ici sur un détail de la colonne, d'une des colonnes décorées de la maison Grand Péristyle. On a a priori, à défaut d'avoir la même personne qui a sculpté, le même atelier ou le même groupe d'artisans. Et chronologiquement, ça correspond en plus. Donc voilà, on a un indice en plus pour la datation de cet édifice. En termes de chronologie, et surtout au-delà de ça, de localisation dans la ville, donc voilà, je vous ai indiqué quelques exemples. Je vous ai dit que ce n'était pas une porte, parce que l'édifice est assez peu épais. Il fait au moins 25 mètres de hauteur. On n'a pas la largeur complète, hein, on ne peut pas déterminer la largeur précise, mais 25 mètres de hauteur, c'est assez important. Et il ne fait que 70 cm d'épaisseur. Comme on le sait, c'est parce que les blocs sculptés, ils sont sculptés sur les trois côtés. Quand vous avez un bloc, je reviens en arrière, mais quand vous avez un bloc qui se situe par exemple ici, vous avez la face avant, la face à l'intérieur de l'arc et la face arrière. Et le bloc, c'est pas, n'est pas une épaisseur assez importante. Il n'y a aucune raison de sculpter quelque chose qui va être caché. Donc on a quelque chose qui est assez peu épais et qui pour les coups pose des questions en termes de maintien parce qu'un bon gros coup de vent peut vous réussir à vous déstabiliser l'ensemble. Et il semblerait, en tout cas c'est l'hypothèse qui était avancée par Yvan Méligorne, qu'on ne soit pas face, comme ça peut être le cas ici avec l'arc de Germanicus à Saintes, on ne serait pas face à un édifice seul, monumental, en tout cas commémoratif, posé à un endroit particulier ou avec une fonction de passer en dessous pour une porte de la ville, mais on serait plutôt quelque chose qui serait associé à un ensemble monumental beaucoup plus important. Alors, assez peu épais pour une porte de ville, mais probablement éventuellement lié à quelque chose, une entrée sur un bâtiment public. On a pensé au forum parce que la place du forum n'était pas loin, mais tout à fait hypothétique, mais un des accès au forum pourrait être matérialisé par cette espèce de façade monumentale que vous traversez pour rentrer sur la place. Donc voilà, et vous avez ici un autre exemple découvert à Aix-les-Bains, en France, avec un édifice, encore une fois, qui est assez étroit. Ce n'est pas l'Arc de Triomphe, ce n'est pas les Arcs de Triomphe qu'on connaît à Rome notamment. Donc voilà, la question qui se pose aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, ces blocs-là, ils ont été trouvés dans des remblais au bord de la cathédrale. Ils n'ont pas été trouvés, en tout cas, l'emplacement de leur découverte ne correspond pas à l'emplacement initial, vous l'avez bien compris, d'où se situait le monument. Donc le forum, si on sait bien ce qu'on a observé, il est dans ce secteur-là. A priori, on a des blocs qui ont dû être déplacés de leur lieu initial pour être vraisemblablement mis en œuvre dans le rempart de la fin de l'Antiquité qui se passait au niveau du chevet de la cathédrale. Ça, on le sait parce qu'on a des zones qui sont sculptées, qui sont recouvertes de mortier. On ne va pas s'embêter à faire un décor aussi joli si c'est pour le reconduire et le cacher à la vue après. Donc ça veut dire que les blocs, ils ont une première fonction dans l'arc de monumental. L'arc a été démantelé, on a réutilisé les blocs pour construire le rempart, et au moment, vraisemblablement, c'est l'hypothèse privilégiée, où on a effacé le rempart du paysage, donc on est à la fin du Moyen-Âge, pour l'époque moderne, on a pu se débarrasser des blocs et les renfouir à proximité de la cathédrale. Donc on a en fait une espèce de une zone initiale, une zone d'utilisation secondaire et une troisième zone dans laquelle on les a trouvés. Donc leur lieu de conservation, de localisation, de découverte ne correspond pas du tout à l'emplacement initial du bâtiment. Voilà, c'est pas un bâtiment en tant que tel, mais c'est fait partie de la parure monumentale de la ville. Et c'est assez peu connu parce que je crois que dans les découvertes récentes, on en a un qui est mentionné anciennement par des découvertes à Avranches, notamment, une porte monumentale de ce type-là. À Rennes, ils ont retrouvé les emplacements. Alors, ils n'ont pas le monument, mais ils ont deux fondations importantes avec une route qui passe entre les deux, qui font bien penser à deux massifs de fondations d'un édifice qui a été entièrement récupéré. Mais eux, ils ont l'emplacement, ils n'ont pas les blocs. Voilà. On n'est jamais content, mais là, c'est. Mais en tout cas, on voit que ce type d'édifice. Le gros des dossiers des édifices connus qui ont subsisté, qui sont encore visibles à Reims, dans différentes parties de l'Empire romain, ce groupe-là va pas s'étoffer, mais des découvertes comme ça ponctuelles ou des réinterprétations permettent d'étoffer un petit peu le corpus. On parlait du forum justement avec peut-être lien avec cet arc. On arrive maintenant à une autre découverte qui a été réalisée dans les années 2009-2010, de manière tout à fait fortuite. On est en plein cœur de la ville, on a un projet. Un rachat par un particulier d'un ancien bâtiment public qui était le trésor public, les impôts. Et on est intervenu, vous voyez le contexte, dans une petite cour à l'arrière d'un hôtel particulier, 18e, donc protégé. Et le projet visait justement à construire initialement un parking souterrain. Le monsieur est assez fortuné, il a racheté l'hôtel particulier, il ne voulait pas avoir de voiture dans sa cour, donc il voulait que les voitures soient garées dans un parking souterrain. D'où prescription, diagnostic archéologique. Et on tombe, donc le diagnostic archéologique est porté sur cette tranchée un petit peu grisâtre en forme de. D'éclairs, enfin, on a fait comme on a pu par rapport au stockage des terres, etc. Et on est tombé sur quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'était en janvier 2009. On avait sur 750 mètres carrés, donc ça c'est le total avec la fouille qu'on a pu réaliser après, des très très grosses dalles calcaires, quadrangulaires. Alors, pas en mode carrelage bien régulier, mais des blocs taillés pour rentrer les uns dans les autres. Vraiment, vous aviez des endroits où c'était une irrégularité, le bloc d'à côté taillé pareil. Et on a beaucoup eu de mal au départ à interpréter ce que c'était parce que c'était janvier, il y avait un peu de neige, il faisait froid. Et pour montrer quelques illustrations, les blocs n'étaient bien évidemment pas tous conservés. Donc on avait parfois la couche qui recevait les blocs et plus les blocs. Par endroits, on avait des éclats de calcaire qui correspondaient aux blocs qui ont été récupérés, qui ont été débités, et on avait une espèce d'amas. On aurait une sorte de remblai un peu de calcaire ou de craie. Et c'est vraiment un jour où il a plu un peu, et on a vu des lignes justement apparaître, et c'était des lignes de jonction dans lesquelles vous ne passiez pas la lame d'un couteau entre deux lames, entre deux dalles. Et en nettoyant correctement, on s'est rendu compte qu'on était sur un aménagement assez massif, avec des dalles qui faisaient bien 20 cm d'épaisseur, sur un remblai qui lui faisait bien 60 cm d'épaisseur, quelque chose qui est assez massif. Une installation fin du 1er siècle, début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc on revient à ce que je vous disais, à cette phase de monumentalisation de la ville à un moment donné de son existence. Et au-dessus, simplement du mobilier, 4e, 5e, et rien entre les deux. En tout cas, quelque chose qui était resté en place pendant plus de 2 siècles. Avant l'intervention, par rapport aux profondeurs d'apparition des vestiges, etc., qui a eu lieu dans les fouilles à côté, on s'attendait à tomber sur quelque chose d'extrêmement épais, avoir beaucoup de couches archéologiques descendre sur plusieurs mètres d'épaisseur. Et finalement, c'était quasiment affleurant par rapport à la surface actuelle. Et passer ces dalles et ces quelques épaisseurs, en 1,50 m, vous aviez toute la stratigraphie. Alors que les termes de la rue Laitière, juste à côté, ils étaient descendus quasiment à 4,50 m, 5 mètres. Et en fait, c'est l'indice du fait qu'il y a un aménagement qui s'est mis en place fin premier, début deuxième, et qui n'a pas bougé pendant quasiment 2, 3 siècles. Ce qui est relativement rare quand vous avez des bâtiments, vous avez des incendies, des réfections, donc à chaque fois on étale des blés, on reconstruit dessus, et le sol s'exhausse au fur et à mesure. Là, on a vraiment l'impression, au-delà de la qualité de l'aménagement, qu'on est dans quelque chose d'assez pérenne, donc vraisemblablement plutôt du ressort public. Après, dans l'interprétation, c'est que le projet de parking souterrain n'a pas abouti, le monsieur a abandonné son projet, mais finalement, comme ça nous intéresse drôlement, on a monté un projet programmé, donc c'est en cela que je vous disais que des fois on essaie de faire un peu feu de tout bois. Il n'y a pas eu de fouille préventive, mais c'était vraiment trop intéressant pour qu'on laisse passer l'opportunité, donc on a fait des demandes auprès de la DRAC, et on a réussi à monter une opération programmée avec des bénévoles, avec des étudiants de la fac de Caen en particulier, à l'été 2010. Pendant le temps, donc les entreprises étaient en train de travailler pour refaire les bâtiments autour. Et pendant la vacance des entreprises, au mois de août, on s'est calé dans le calendrier pour pouvoir justement intervenir pendant qu'ils avaient évacué leur camion et fouiller au total entre le Diag et la fouille 750 mètres carrés. Donc c'était qu'une grande place, en tout cas pour l'époque antique, en partie récupérée. Et au niveau de l'interprétation, je reviendrai après sur ce qui s'est passé sur cette place à la fin de l'Antiquité, mais quelque chose qui reste en place pendant assez longtemps. Et ben, une superficie de 750 mètres carrés, une mise en place assez importante matériellement, et donc l'hypothèse la plus probable, dans la mesure où des espaces publics qui consomment autant d'espace en plein cœur de la ville, vous pouvez avoir des sanctuaires, vous avez des aires sacrées qui sont autour, mais c'est rarement en plein cœur de la ville. Vous pouvez avoir des espaces thermaux avec des palestres, des choses comme ça qui peuvent exister, mais encore une fois, ça fait quand même assez important. Et donc l'hypothèse privilégiée, ce serait celle de la place du forum, ce qu'on appelle l'area sacra, enfin l'area du forum, qui est souvent divisée en deux parties dans les ensembles monumentaux en Gaule romaine, en tout cas dans le nord-ouest de la Gaule, avec une grande place rectangulaire entourée de boutiques et de bâtiments administratifs, et sur cette place, une partie entre guillemets profane, publique, la place on se rencontre, on discute, et une partie plus sacrée avec le temple dédié à l'empereur et à Rome. Donc voilà, la difficulté, c'est que vous avez bien compris, on est intervenu sur un cadre assez restreint et on n'a pas les bords de la place. Donc on a, comme si vous faisiez un sondage dans une maison dans 5000 ans, vous tombez sur du carrelage, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le salon. On a le milieu, on n'a pas les bords, donc on ne sait pas dans quel sens ça se développe. On a testé des zones autour, dans les jardins des gens qui gentiment nous accueillaient autour du bâtiment pour faire la prospection géophysique, mais encore une fois, c'est trop étroit pour pouvoir avoir des informations pertinentes, mais ce type d'aménagement fait qu'on ne peut l'identifier que comme étant a priori la place du forum. Donc, autre édifice public, un peu fantôme, parce qu'on n'a pas la partie la plus intéressante, la plus facile à identifier, mais en tout cas, l'interprétation est assez pertinente, enfin, correspond avec une réalité. Là, c'est juste le plan de la fouille, donc pour vous montrer l'emprise totale de ce qui a été ouvert. En gris clair, c'est le radier qui sert d'installation qu'on retrouve partout sur toute l'emprise, qui sert à accueillir les dalles. Et les petits points, les petites zones un peu plus gris foncé correspondent justement à ces dalles, aux endroits où elles étaient préservées. Donc largement récupérées et largement réimpactées par une occupation de la fin de l'Antiquité due au Moyen Âge, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. On est fini pour les bâtiments publics, alors il en manque un certain nombre de la parure habituelle, mais voilà pour ce qu'on a à Bayeux. Un tout petit point rapide sur l'habitat. Encore une fois, l'habitat identifiel en tant que tel. Donc un cas facile, on fait une fouille préventive avant la construction d'un immeuble et d'un parking souterrain, on tombe sur des vestiges. Donc là, on se trouve ici au niveau de la rue de la Bretagne, on est en périphérie de la ville. Là, vous avez une vue de la fouille, l'aire de fouille depuis le bâtiment, l'immeuble voisin. Et dans la réalité, les vestiges, en fait, la superficie fouillée correspond à toute cette zone-là, mais la domus, en tout cas la partie de la maison qu'on a fouillée, on n'a vraiment qu'un angle, qu'une toute petite partie. L'essentiel de la zone de fouille correspondait en fait à une sorte de terrain vague pour l'époque romaine. On a dans un premier temps les vestiges qui apparaissent en vert, une succession de fosses, de fossés, qui caractérisent plutôt un milieu rural ou périurbain. On n'est pas encore à l'endroit où la ville a atteint cette zone. Mais on a des fosses de rejet et on a beaucoup d'éléments de boucherie qui indiquent en fait qu'il y a une activité de boucherie pas sur le site, mais ailleurs dans la ville, et que ce qu'on ne consomme pas, certaines parties de la carcasse, etc., sont rejetées. On sait que c'est de la boucherie parce que pour le coup, c'est très ciblé, il nous manque toujours les mêmes éléments, on a toujours les colonnes vertébrales, les côtes, etc., et pas le reste. Donc, dans un premier temps, on est au premier siècle, première moitié du premier siècle après Jésus-Christ, une zone de rejet où on rejette des déchets. Dans un second temps, ce sont les quelques vestiges jaunes qui apparaissent, qui ont été préservés par les vestiges postérieurs. Quelques bâtiments en matériaux périssables, quelques unités d'habitation sur des petits solins de pierre, des murs en terre et bois qui ont laissé très peu de vestiges, des sols parfois constitués de coquilles d'huîtres entre les différents bâtiments, quelque chose d'assez frustre, mais néanmoins une occupation. Là, on est plutôt dans la deuxième moitié du premier siècle après Jésus-Christ. Et on a, à partir de fin premier, encore une fois, début deuxième, l'installation d'un bâtiment dont on sait qu'on n'a qu'un tout petit bout dans l'emprise de la fouille, puisque l'essentiel doit se développer de l'immeuble depuis lequel on a pris la photo que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui a été construit dans les années 60-70. À un moment, il n'y avait pas de suivi forcément archéologique comme maintenant, donc l'essentiel du site doit être détruit maintenant sous l'immeuble à côté. Mais néanmoins, on perçoit un ensemble de bâtiments, enfin un ensemble de pièces, pas dans le détail de ses fonctions, mais des pièces d'habitation, des sols soit en argile, soit en mortier de chaux, des murs maçonnés, quelques éléments dans du pain épars, qui nous indiquent vraiment l'existence d'un bâtiment, enfin, une maison d'habitation, même si on n'a pas les pièces, le plan complet pour pouvoir l'identifier, on est à n'en pas douter sur un ensemble de bâtiments avec un standing assez intéressant. Quelques éléments, donc on avait un certain nombre de cruches qui ont été rejetées dans une citerne construite à proximité du bâtiment. Des petits éléments de mobilier juste pour vous montrer, mais cet élément-là est assez particulier. C'est un manche de couteau en forme de jambe humaine. Donc vous avez la cuisse ici, le genou, le mollet. Il doit y avoir un petit pied qu'on rapportait. C'est un manche d'opinel. L'arrière, vous avez la petite fente pour ranger la lame. Et la spécificité, en fait, c'est qu'il est réalisé en ivoire. Donc, c'est quand même voilà, c'est pas de l'os, c'est quand même un certain niveau, un certain standing. Et ça va bien avec un certain nombre d'objets qu'on a pu retrouver. Alors, des objets beaucoup plus classiques de la vie quotidienne, de la vaisselle, des petits miroirs, des fibules, une agate, enfin, en tout cas, une intaglie, probablement en agate. Donc, voilà, même si le bâtiment était assez récupéré, on n'avait quasiment plus aucun mur, on avait juste des tranchées dans lesquelles, enfin, qui prenait l'emplacement des murs dont les pierres avaient été récupérées, mais l'indication d'un ensemble assez d'un certain standing, en quelque sorte. L'autre exemple, et là c'est encore un peu un exemple fantôme, vous avez, donc on était ici pour la maison située rue de la Bretagne, là c'est un site des vestiges qu'on a trouvé ici, mais sur lesquels je ne m'appesantirai pas parce qu'on n'a pas encore récupéré tous les rapports. C'est une fouille ancienne, enfin en tout cas un diagnostic en 1900, dans les années 90. Ils sont tombés sur plusieurs fours à chaud, donc ce sont des grosses structures plutôt de la fin d'Antiquité en l'occurrence, qui servent à récupérer les pierres calcaires pour les transformer en chaux. Vraisemblablement pour que la chaux serve de matériau, de liant, pour construire le rempart de la ville au même moment. Et on n'a pas retrouvé la maison en tant que telle, mais pour récupérer les pierres, ils se sont débarrassés des enduits peints qui étaient sur les pierres. C'est comme si vous arrachiez un mur, vous enlevez le papier peint et la peinture, et il y avait une fosse où il y avait tous les enduits peints en vrac. Et remonter, ça vous donne une pièce complète d'une domus se trouvant quelque part dans la ville, donc on ne sait pas où, mais qu'un décor assez soigné, avec des références mythologiques ou des références stylistiques qui montrent que le propriétaire avait un certain niveau de connaissance, une certaine intégration dans la culture romaine. Et donc voilà, c'est un peu un exemple fantôme, enfin en négatif, c'est qu'on n'a pas le bâtiment en tant que tel, mais on a l'existence, et ça fait partie de ces différents points de connaissance sur la ville. C'est un peu frustrant parce que vous n'avez pas un bel édifice complet, vous pourrez comprendre avec les différentes phases, mais ça participe de toutes ces données qui nous renseignent sur une ville avec des vestiges assez importants, assez sympathiques pour l'époque. Voilà pour l'habitat. Je clôture le sujet. Très rapidement, juste pour vous dire qu'effectivement, là, j'ai passé assez rapidement sur les bâtiments publics. Il y a toute une série de points d'interrogation qui subsistent et qui subsisteront probablement encore. Je ne vous ai pas parlé d'un certain nombre d'éléments de la parure monumentale. Ce qui est bien à l'époque romaine, c'est que vous avez à chaque fois une espèce de liste de courses. Vous pouvez cocher, on a les thermes, on a les temples, etc. Là, il y a un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas. Donc, je vous ai dit, question rue, on a du mal à comprendre comment ça s'organisait. On sait que ce standing, ce type d'agglomération avait des édifices de spectacle, notamment un théâtre, au moins, à défaut d'avoir un amphithéâtre, qui n'a pas été encore identifié. Des zones de sanctuaires, des zones de temples, en dehors du fait qu'il devait y avoir à proximité de la place du Forum, on n'en a pas encore identifié. On a des suppositions, notamment, on est intervenu en 2018. Dans le cadre du futur projet de refonte du musée de la tapisserie, on a fait toute une série de sondages autour du musée actuel pour savoir, dans le cadre de l'agrandissement du musée, où est-ce qu'il pourrait construire. Et on est tombé sur, encore une fois, une vaste esplanade, c'est un peu la mode, un énorme empierrement sur plusieurs centaines de mètres carrés, qui en tant que tel ne nous indique pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas un carrefour, a priori, ce ne serait pas lié à un bâtiment privé, donc peut-être quelque chose du ressort du domaine public. Sachant qu'au XIXe siècle, ils ont trouvé une mosaïque à proximité, qu'on est sur les coteaux qui domine un petit peu la ville, qui se développe dans la vallée et sur le coteau opposé. Autant au départ, on pensait éventuellement à mosaïque, habitat, peut-être à une domus périurbaine. Là, on s'interroge sur le fait qu'on puisse avoir, si encore une fois, une esplanade assez importante, peut-être une zone de sanctuaire, un sanctuaire en périphérie de la ville, avec un décor de mosaïque à l'intérieur. Donc, c'est vraiment beaucoup de suppositions, mais en dehors de ça, très très peu d'éléments liés au culte. C'est pareil également pour le monde des morts, j'en suis désolé. On a des connaissances des zones de placement pour les nécropoles, mais finalement ce sont des données essentiellement 19e siècle. Et en dehors d'une découverte d'une urne funéraire ici, à l'extérieur, pardon, juste là, à l'extérieur de la ville, on a très peu de données on a des emplacements théoriques, mais pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de retomber sur des zones d'inhumation, enfin des zones funéraires antiques. On a un bon espoir parce qu'il y a une prescription d'archéologie qui risque de tomber ici, juste là. Je vous ai parlé des fours à chaud, on avait les décodants du pain en vrac. Ici, il y a une école qui va être réhabilitée prochainement par la ville. Et on a des mentions de découvertes anciennes d'urnes et probablement une nécropole romaine. Mais voilà, donc l'intervention, peut-être en fin d'année, j'espère, pourra peut-être nous permettre de rajouter, en tout cas de confirmer la présence d'une nécropole. Mais voilà, on a des éléments, mais encore une fois, c'est assez ponctuel et on a un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne de l'époque, en tout cas, qui nous sont complètement inconnus. L'artisanat, c'est très maigre, à part. On l'a par les objets, dont on sait qu'en partie ils étaient produits sur place. On a par extension, des informations sur l'intégration de la ville à tout un réseau du grand commerce romain. On a des amphores qui viennent d'Espagne, du mobilier qui vient du sud de la Gaule, etc., d'Italie. Mais précisément, on n'a pas d'atelier, enfin, on a toute une série d'équipements, de structures qui sont absentes, qu'on n'a pas pu encore observer sur l'agglomération. Je passe maintenant pour la fin de ma communication sur la situation à la fin de l'Antiquité. Donc la ville change de nom. C'est un trait commun, encore une fois, avec les agglomérations à l'époque antique, à la fin de l'Antiquité. Elles prennent à ce moment-là le nom de leur peuple. Donc on passe de Augustodurum à, les mentions textuelles parlent de Civitas Baiocasium, la cité, la ville des Baiocas. On a, alors, changement administratif, encore une fois, tout ça, c'est spontané, c'est pas spontané, hein, c'est quelque chose qui est assez bien connu quand on a différentes villes de Gaule, en l'occurrence, et différentes parties de l'Empire romain. On a une réorganisation administrative, on redécoupe un petit peu le territoire, un peu comme on l'a fait il y a quelques années avec les régions, là c'est pareil. On passe de la région de la Lyonnaise à une région plus petite, la Lyonnaise seconde. Bayeux reste toujours une capitale de cité, donc contrôle le territoire autour d'elle. La spécificité, en fait, c'est qu'on a dans cette réorganisation territoriale, Bayeux va intégrer, absorber le territoire de sa voisine, Vieux, les Viducas. Tout le territoire de la cité Viducas est intégré et géré désormais par Bayeux. Ce qui explique qu'à Vieux, vous n'avez pas de rempart, pas d'enceinte tardive créée à la fin de l'Antiquité, parce que la ville doit perdre son statut de capitale au profit de Bayeux. Et donc, il y a toute une série de modifications qui ont lieu. Donc, on a la mention dans différentes sources textuelles de la ville. Donc, on parle donc de la Civitas Baiocasium. Dans la Notitia, donc un document, notice que s'appelle la Notitia Galliarum. On a dans un autre document la mention de la présence d'un préfet des Lettres Bataves. Donc c'est un préfet militaire qui serait installé dans l'agglomération, dans le secteur de la ville, avec des troupes militaires romanisées, intégrées, qui viendraient au départ en dehors des frontières de l'Empire. Donc on est dans un moment où la ville, elle change a priori complètement de physionomie. Je vous l'ai dit, on construit déjà l'enceinte que je vais vous présenter dans quelques instants. Cette enceinte a fait à peu près 15 hectares. En réutilisant les monuments qui ne sont plus utilisés, donc il faut imaginer une ville qui s'est étendue sur 50 hectares, qui va au fil du temps se restreindre. Un paysage plutôt de quartier abandonné, de ruines, on ne sait pas trop à quoi ça pouvait ressembler. En tout cas, on se sert des autres bâtiments anciens pour pouvoir réutiliser les monuments, les pierres, et construire cette enceinte. Alors, ça, j'en ai eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises, mais on parle tout le temps de ces invasions barbares avec la construction d'édifices pour se protéger les villes. C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Il est certain qu'a priori, le temps de construction d'un édifice de ce type-là, on n'est pas uniquement dans une fonction de militaire, de protection, de défense d'une ville. C'est probablement le cas quand même, mais on a des phénomènes qui sont un peu différents, un peu plus complexes. Et on doit vraisemblablement être dans quelque chose qui fait qu'on change la façon d'habiter la ville et de se représenter la ville. Autant au Haut Empire, pour avoir un certain niveau, pour l'image de la ville, la puissance de la ville, elle paraît à travers sa parure monumentale, donc les édifices de loisirs, les thermes, etc. Autant là, on est dans quelque chose où la puissance de la ville, son pouvoir, il est marqué par son enceinte et par cette construction-là. Et la construction d'un édifice pareil. Donc, sur 15 hectares, avec un mur qui fait 3 mètres d'épaisseur, plusieurs mètres de hauteur, forcément, ça modifie tout le tracé des rues, ça modifie le tracé des aqueducs. Il y a des édifices qui doivent être reliés par des aqueducs avant, qui ne peuvent plus l'être après, si vous construisez un mur qui va tout couper, tous les réseaux. Donc, c'est vraiment un changement, complet de la façon de concevoir la ville et de vivre la ville. Donc, cette enceinte, elle se double par ailleurs d'un fossé, sur lequel je reviendrai dans quelques instants. Voilà, une rétraction. Et malheureusement, en tout cas, c'est l'état de conservation des vestiges qui l'impose, c'est qu'on a beaucoup moins d'informations sur cette partie-là de la ville. On a des points, donc ce sont les petits points en bleu que je vous ai indiqués, qui sont indiqués d'occupation. Donc on a l'occupation intramuros, ça c'est pas un scoop. Quelques-unes encore une fois extramuros, mais sans qu'on puisse toujours déterminer s'il s'agit juste de la fréquentation de ruines où on s'installe pour récupérer des matériaux ou on habite dans ces ruines un certain nombre de temps, et puis pas de nouvelles constructions en tout cas à l'extérieur du rempart. Donc voilà une façon complètement différente d'envisager la ville avec cette enceinte. Alors cette enceinte, elle fait donc je crois plus d'un kilomètre cinq de périmètre. On a eu l'occasion d'observer à plusieurs reprises. Elle est conservée encore une fois, si j'en viens juste en arrière pour pouvoir vous distinguer bien encore une fois son tracé. Alors là, le trait bleu le reprend, mais même si le mur n'est plus visible en tant que tel, quasiment à 95% ou 90%, par endroit, cette enceinte, en fait, elle a été réutilisée pendant tout le Moyen Âge et jusqu'à l'époque moderne. Elle a dû être complètement effacée du paysage vers la fin du 18e, au courant 18e. On a quelque chose qui a marqué l'organisation de la ville. Donc, à défaut d'avoir le mur, vous avez des fois des parcelles ou des limites de propriété qui reprennent ce tracé-là. Sans compter qu'elle a été doublée par un fossé, que ces fossés ont été utilisés un certain nombre d'années. Ensuite, ça a servi de collecteur, de récupération des eaux. Ça ne doit pas forcément être très agréable au niveau de l'odeur et de la vision. Donc, ça a été intégré ensuite, au bout d'un moment, quand il n'y avait plus de raison vraiment de les garder en état. Ça a été intégré et colonisé par les propriétés voisines, comme des jardins. Et vous avez une couronne de jardins autour du centre urbain actuel qui reprend justement le tracé de ces anciens remparts. Et vous avez donc ce monument qui est présent partout en ville, des fois très visible, des fois moins. Parfois, donc comme c'est le cas ici, au chevet de la cathédrale, dans une fouille en 2003, on a l'opportunité de faire une fouille et de l'observer, de voir la façon dont il a été construit. Donc encore une fois, des gros blocs récupérés d'autres monuments qui servent de fondation. Et ensuite, on construit en élévation des petits moellons de pierre avec des rangs de briques régulièrement espacés. Là, vous avez une vision rapide d'un petit sondage qu'on avait fait à un autre endroit dans la ville, avec ces gros blocs, encore une fois, qu'on distingue un petit peu ici, ces gros blocs qui servent de fondation. Et parfois, comme je vous le disais, il n'est pas forcément visible, mais là, vous avez la tour d'angle, vous avez une sorte de manoir avec une tour intégrée dans le bâti qui se trouve ici, qui correspond en fait à l'angle nord-ouest de l'enceinte. Intégrée au Moyen Âge, qui était une tour, probablement antique à l'origine, puis médiévale, et qui est devenue un bâtiment et qui a été intégré. Donc voilà les différentes façons de voir cet édifice qui est majeur dans la ville. Et le dernier point d'intervention qu'on ait pu faire, c'était au mois de janvier dernier, là, il y a quelques semaines. Nous sommes intervenus juste à proximité de la cathédrale ici, rue Larcher. Et encore une fois, alors on savait qu'on avait vu 50 mètres à gauche, 100 mètres à droite, donc on savait qu'en tapant au milieu, on allait tomber sur le rempart. Mais on a pu observer, en faisant des sondages assez réduits, encore une fois, ce rempart. Et l'information qu'on a récupérée ce matin, c'est qu'en remettant bout à bout ces différentes informations de 2003, de 2009, nous en 2021, les collègues ayant fait le travail auparavant ont fait ça suffisamment finement pour qu'on puisse avoir, on peut recaler dans l'espace le rempart et en tout cas réussir à déterminer précisément son tracé. Mais on a réussi à déterminer ce matin, c'était mon collègue qui m'a réussi à avoir l'information, l'altitude de ce rang de briques-là. On a observé, donc là c'est le même, hein, ça c'est le dessin, ça c'est la photographie vue en 2021, correspond exactement au centimètre près à ce qui était vu 50 mètres plus loin sur ce dessin-ci. Là, cette arrase de briques-là, où ils avaient pris la bonne idée de prendre une altitude ici à l'époque. Donc on voit qu'on est dans un bâtiment qui a dû nécessiter un certain nombre de temps de construction, mais pour le coup, on a vraiment quelque chose qui est très planifié avec des constructions, en tout cas, qui doivent se faire par étapes, si ce n'est sur tout le périmètre, en tout cas par secteur. Donc une construction qui est vraiment assez importante et qui a dû nécessiter énormément de moyens. Quand vous imaginez la masse d'un édifice de 3 mètres de largeur, la quantité de chaux, de matériaux qu'il fallait, c'est forcément un chantier qui est assez imposant et qui assez coûteux aussi, qui marque un investissement important de la ville et de la communauté humaine qui y habite pour une raison assez importante. Voilà pour ce rempart qui fait le tour de la ville. Quelques vues justement de ce sondage qu'on a fait, ces sondages qu'on a fait en janvier. Donc là, vous avez vu, on est le long de la rue Larcher qui passe ici à Bayeux, et le petit sondage qu'on a pu réaliser. Donc vous avez ici le parement du rempart qu'on distingue un petit peu, puis ici vous l'avez en plan, qui se trouve à peu près 1,50 m sous le sol actuel. Et le sondage qu'on a fait 15 mètres plus loin, vous avez encore une fois ce rempart qui réapparaît, donc qui est extrêmement massif, plus ou moins détruit, récupéré. Donc je vous l'ai dit, il a été construit à l'époque romaine, puis il a été réutilisé pendant toute l'époque médiévale. Là, en l'occurrence, on a la partie basse qui correspond à l'époque antique, Et puis au-dessus, ils ont remis un nouveau mur à l'époque médiévale, donc il y a dû avoir des phases où il devait pas être bien haut ou en bon état, ils l'ont reconstruit, etc. Voilà pour l'édifice, la correspondance, ce qui correspond au rempart. J'en reviens maintenant sur un certain nombre de points d'occupation pour l'époque antique avant de vous laisser la parole. On n'est pas, donc je ne peux plus vous déterminer si c'est de l'habitat, comme j'ai pu classifier tout à l'heure les différentes occupations. Là, je vais reprendre site par site, il y en a deux ou trois. On est sur la zone du forum, de la place du forum dont je vous ai parlé. Là, vous avez une coupe où vous voyez bien, effectivement, en bas, vous avez les niveaux de cailloutis, d'empierrement du tout début de l'époque romaine, du premier siècle après, enfin, début du premier siècle après Jésus-Christ, qui correspondent probablement à une protoplace, une première place du forum. L'énorme remblai blanchâtre, c'est ce remblai assez important qu'ils ont installé pour pouvoir poser les dalles calcaires de la place du forum à partir de la fin du 1er, début du 2e siècle. Et au-dessus se développe toute une stratification de terres noires, ces fameuses terres noires dont on a pendant un certain temps pensé qu'il s'agissait uniquement de remblais ou d'indications d'une remise en culture de parcelles au sein des villes, etc. Et qui finalement, pour notre cas de figure, correspondent, alors ça on ne le voit pas à l'œil nu parce que ça paraît vraiment très homogène. On a pu, grâce à une étude géomorphologique, donc là vous avez le plan complet, je vous remets le plan complet, on a pu déterminer une occupation assez importante à la fin de l'Antiquité, donc à un moment où la place. Il n'y a plus de vocation spécifique publique, puisque la place, on se permet d'y installer une cabane, de défoncer les dalles, d'installer un silo, d'installer des bâtiments dessus. Donc il n'y a plus de vocation publique du lieu. On réutilise l'espace, mais dès la fin du 4e, 5e siècle. Et ensuite, ça se poursuit. On a des indices d'occupation du mobilier de l'époque mérovingienne qui poursuit. Et on a une succession. Ici, vous avez un petit fond de cabane quadrangulaire avec des petits poteaux aux angles. Une sablière basse au milieu. Là, des petites fosses. On ne distingue pas très bien sur cette photo-là, mais donc tout le pourtour était farci de petits trous de piquets avec une espèce de système de petites fosses un peu avec un clignonnage autour. Des silos, des trous de poteaux. Donc on a une autre occupation d'une autre nature qui se met en place. Et en plus de ces structures qui viennent entamer la place, vous avez une sédimentation de terre noire qui s'installe, que je n'ai pas là, mais je vous remonte cette photographie-là, où pour le coup l'étude par notre collègue Quentin Borderie, qui est géomorphologue pour le département de l'Eure-et-Loir, indique que sur 50 cm d'épaisseur, ce que nous on voit à l'œil nu comme étant un seul et même remblai, avec peut-être plus de mobilier en bas qu'en haut, en fait lui il interprète, il voit 10 phases successives d'apport, avec des phases, donc aucune phase, contrairement à ce qu'on pouvait penser, aucune phase liée à la mise en culture des lieux. Il n'y a pas de brassage, etc. On n'a que des phases de tassement. Donc un premier temps avec beaucoup d'ossements animaux qui correspondraient à l'installation d'une boucherie à proximité. Et ces sols se sont tassés. On a des zones assez feuilletées où on voit qu'il y a des apports liés à la circulation sur l'emplacement, des déchets qui sont jetés. Et d'autres zones avec des apports soit de remblai pour mettre tout ça à propre. Tout ça de manière plus plane. Et puis le matériel, le mobilier évolue au fur et à mesure. Vous passez des niveaux 4e jusqu'au niveau carolingien et du 11e siècle. Donc une sédimentation assez importante qui se développe. C'était la première fois qu'on avait pu vraiment l'observer et l'étudier en 2010 à Bayeux, en dehors du fait de la rue laitière dont je vais vous parler, qui n'avait pas été interprétée de cette façon-là dans les années 80. Et on l'a retrouvé ça il y a quelques temps sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure à proximité du musée de la tapisserie de Bayeux. C'est une vaste esplanade de pierre qu'on suppose peut-être appartenir à l'époque antique à un sanctuaire. En tout cas, c'est très hypothétique, mais l'idée est intéressante. On est retombé encore une fois sur le même type de stratification, avec, là, la photo n'est pas très claire, mais le caillouti, l'empierrement qui se trouve en partie basse, et une sédimentation noirâtre qui se met en place sur une cinquantaine, soixantaine de centimètres à peu près. Et après, vous avez des remblais médiévaux, plus classiques, 13e, etc., qui se mettent en place avec le mobilier qui va bien. Et là, encore une fois, on a refait une analyse micromorphologique de ces sols. Et ben, c'est encore une fois très intéressant. Ce qui apparaît encore une fois tout à fait uniforme correspond à plein de phases, plein de types d'actions différentes où on a du piétinement, de la circulation. Il y a un moment où il indique qu'on est plutôt devoir être sur une espèce de pelouse rase parce qu'il retrouve en tout cas des phénomènes de tassement avant qu'on apporte un gros remblai qui vient sceller cette zone-là. Donc quelque chose qui montre qu'il y a de l'occupation. Et encore une fois, là, on n'a pas de fond de cabane vu dans la tranchée, mais on a des petits trous de poteaux. Donc il y a une occupation d'une nature différente qui ne correspond pas du tout à la nature antérieure. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en dehors des murs, on est extramuraux. C'est des phénomènes de terre noire, des sédimentations de ce type-là. Elles ne sont pas forcément toujours très fréquentes en périphérie des villes de la fin de l'Antiquité. On a le cas Évreux, où là, pour le coup, on en a beaucoup, mais c'est assez peu documenté. Donc, Évreux, ils ont 60 références, nous, on n'en a que deux ou trois. Mais les travaux, justement, de comparaison entre les deux agglomérations sont intéressants parce qu'on voit qu'il y a des façons de vivre la ville différentes. Ça passe, je ne l'ai pas dit par rapport aux terres noires, mais on passe à une façon, probablement, de manière de construire différente aussi. On revient plutôt à des matériaux périssables. Donc, tout ça crée des couches qui n'ont pas la même facture, qui sont moins minérales. Il y a moins de mortier, il n'y a pas de mortier d'ailleurs dedans. Donc, c'est très différent de ce qui existait vraiment à l'époque romaine. Donc voilà, cette réoccupation qui a constitué un deuxième, enfin un autre point d'occupation pour la fin de l'Antiquité. Et j'en reviens pour terminer pour ce type d'occupation, à cet ensemble thermal mal interprété à l'époque, dans les années 80, donc de la rue Laitière, où c'est en reprenant toutes les données qu'on s'est rendu compte, vous voyez bien les photographies des murs, avec des énormes échancrures qui n'avaient pas été bien comprises à l'époque, dans les maçonneries, des énormes blocs de pierre, grandes comme la table ou la moitié de la table, posés dedans. Et on se rend compte, quand on regarde à peu près les quelques photos qui ont pu être réalisées à l'époque, il y a quand même une sédimentation assez importante. Là, vous avez une coupe dans la ruelle. Vous avez un des sols de la ruelle de l'époque antique et vous avez plein de niveaux de sol. Ce n'est pas un remblai qu'on a apporté d'un coup pour sceller le site. C'est vraiment indiquer que le site a été fréquenté. Et quand on met en corrélation ces différents niveaux de sol, ces terres noires qui se sont constituées, qu'on reprend l'analyse de la céramique bien localisée dans les différentes couches, qu'on se rend compte que dans cette petite ruelle et dans cette petite pièce, donc sur 100 mètres carrés, on a retrouvé 450 monnaies, pas sous forme d'un trésor, mais éparpillées dans les différentes couches, sur un contexte assez restreint entre la fin du 3e et le 5e ou 5e ou plus tard. Ce n'est pas un trésor, donc ça veut dire que c'est un lieu qui était fréquenté assez. Pour vous dire, les monnaies en contexte à Bayeux, on en a trouvé, je crois, en tout. 170 ou 480, et donc les 95% du corpus viennent de ce site-là. Et notre collègue Pierre-Marie Guillard, qui travaille ici, qui est numismate, lui a repris les données numismatiques pour bien se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un trésor, qu'on avait vraiment un dépôt monétaire, enfin, en tout cas des monnaies qui se constituaient, qui se déposaient au fur et à mesure. Ce qui est donc 450 monnaies. À côté de ça, un collègue céramologue lui a repris le mobilier céramique et de une seule phase. Après le 3e siècle, on rembrouille en 11e. On a réussi, en reprenant les données anciennes, et c'était assez compliqué, à déterminer l'existence d'au moins encore 9 phases différentes, ou petites phases, entre le 4e et le 11e siècle. Donc essentiellement à la fin de l'Antiquité, à l'époque mérovingienne, mais on a encore une fois une occupation des lieux. Alors déterminer qu'est-ce qui s'y passait, c'est un peu compliqué. On a du mobilier militaire, on a des fibules plutôt. Référence à la présence d'officiers militaires, des choses comme ça, un monnayage assez important. On est en plein cœur de l'agglomération et il se peut que ce ne soit plus des terres, mais que le bâtiment soit réoccupé pour installer des personnes importantes. En tout cas, il y a des constructions assez massives et encore une fois, c'est la relecture des données anciennes qui nous permet de compléter un petit peu nos connaissances, même si c'est toujours frustrant parce qu'on n'a jamais toutes les réponses. Pour conclure, enfin. Donc, pas tant sur l'aspect historique, parce que je pense vous avoir montré effectivement que même avec peu de données, on peut réussir quand même à sortir quelques éléments. Rien d'exceptionnel par rapport aux autres villes romaines, mais néanmoins par rapport au point de départ de connaissances, c'est finalement assez intéressant de se lancer dans cet exercice-là. On se rend compte que, je le redis, hein, c'est pas par frustration, mais il y a toute une série de champs, de domaines qu'on ne maîtrise absolument pas, qu'on ne connaît absolument pas. La parure monumentale, les rues, j'y reviens encore une fois, mais néanmoins, on a, avec ce travail un petit peu systématique de reprise des données, on réussit quand même à avoir un certain nombre d'aspects qui sont visibles désormais maintenant, et que méthodologiquement, si je peux orienter ma conclusion dans ce sens-là, l'idée justement, c'est que pour ce dossier-là, on a réussi à arriver à ces résultats-là en mettant un protocole, quels que soient les acteurs. J'étais loin d'être le seul à fouiller uniquement sur cette agglomération, mais en mettant différents acteurs un protocole assez strict, assez précis, en récupérant l'information au maximum. Donc des fois, en lisant la presse, en voyant simplement qu'il y a un projet qui va se faire, en faisant un petit peu de lobbying auprès de la DRAC en disant ah, c'est intéressant, ça serait bien de prescrire. Voilà. Donc, différentes actions préventives, programmées, la reprise de données anciennes ont réussi néanmoins à avoir des informations assez pertinentes. Et surtout, encore une fois, c'est passé par une démarche interdisciplinaire. C'est-à-dire que faire travailler des spécialistes et confronter les données avec d'autres villes, d'autres collègues dans d'autres régions pour se rendre compte du niveau de connaissance ailleurs ou d'aspects. Un des exemples, je finirai par ça, c'est que les derniers sondages qu'on a pu faire au mois de janvier, on est tombé sur des niveaux 5e siècle collé contre le rempart dans un sondage qui est large, qui fait moins d'un mètre de large. Et pour le coup, les discussions qu'on a pu avoir avec des collègues qui ont fouillé le même type de dépôt à Évreux, dans d'autres conditions, nous invitent. Alors, on ne peut pas aller sur ce terrain-là, sur Bayeux, mais eux ont trouvé un énorme talus, ce qu'on appelle un naguère, qui est placé au pied du rempart intramuros à l'époque antique. Ils font une sorte de chemin de ronde. Ils ont eu l'opportunité de pouvoir ça sur une grosse superficie, mais c'est les éléments qu'on a, nous, même aussi modestes soient-ils, peuvent nous permettre d'envisager, en tout cas à un moment donné, peut-être cette hypothèse-là, même si nous, on n'a pas ça sur 15 mètres de large, on n'a ça que sur 1 mètre, la question peut se poser. Et c'est toujours une fois, maintenant, on sera plus vigilant, qu'on sait que ça existe dans le nord-ouest de la Gaule, on sera plus vigilant pour essayer de déterminer la prochaine intervention qui se passera à proximité, si on a l'opportunité de faire placer bien un sondage pour répondre à cette question-là particulièrement. Et bien, je vous remercie pour votre attention.